Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Par les temps qui courent. Chaque soir, nous recevons ici des artistes dans l'actualité culturelle et ce soir, Emmanuel Pagano.
Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
En ce jour du 28 octobre, on pêche l'étang. Tout le monde est là, c'est la tradition, tout le monde, sauf un des fils du pays. Tandis que l'on remonte les poissons des eaux si familières, ce fils-là manque. David est loin, loin de là, et il remonte des eaux profondes lui aussi. Sa mission sous-marine de plusieurs mois prend fin. De cette absence, David tire toute sa puissance, car tout le monde y pense, à commencer par Jonathan. Ces deux-là ont grandi plus que côte à côte, et leur proximité a longtemps fait ruisseler les rumeurs comme les cours d'eau les plus fous. Étaient-ils frères en secret, jumeaux même, amis véritables ou amants? Toujours est-il que l'un est resté, l'autre est parti, et que ce n'est pas la moindre de leur rupture. Serez-vous des nôtres, c'est le titre de votre dernier roman, paru aux éditions POL, et c'est le troisième de la trilogie des Rives. Bonsoir Emmanuel Pagano.
Bonsoir.
Bienvenue. Je cite les deux romans précédents, Ligne et Fils, et sauf Riverain, ils étaient aussi parus chez POL.
L'eau, le feu, l'air font vivre chacun à leur manière l'énorme corps de la terre. Chacun des trois éléments de la mobilité spécifie une sorte de physiologie du cosmos. Mais précisément, des mondes aussi fortement unifiés dans les substances de l'eau, du feu ou d'une substance éthérée, des mondes aussi fortement taxés par les forces du fleuve, de la flamme ou de l'ouragan, appellent chacun un héros. Le héros, c'est le poète. Le poète prend tout naturellement l'empire sur son univers. La poésie cosmique se situe toujours à l'origine d'un univers.
On commence par la voix de Gaston Bachelard, Emmanuel Pagano, parce que vous lui rendez hommage à la fin de ce texte-là, notamment à son livre L'eau et les rêves, mais aussi pour vous demander de nous resituer un petit peu ce grand projet littéraire que vous appelez la trilogie des Rives. Est-ce que vous avez choisi, pour reprendre les mots de Bachelard, l'un des trois éléments qui serait l'eau, ou est-ce que parler des rives n'est pas exactement parler de l'eau ?
C'est pas exactement moi qui ai choisi, c'est qu'on m'avait fait remarquer, des lecteurs m'avaient fait remarquer qu'il y avait plein d'eau dans mes livres. Donc je me suis interrogée sur, même s'il y a de l'eau partout, hein, en fait, finalement, dans toutes les œuvres et partout, je me suis dit, bon, peut-être que ça a un sens, je vais aller fouiller. Et je me suis aperçue rapidement que l'eau en elle-même m'intéressait pas, mais que c'était le rapport de l'homme et de l'eau qui m'intéressait, tout comme tout le travail que j'avais fait sur la nature était en réalité un travail sur la relation de l'homme et de cette nature. Et je me suis dit, ben là où l'homme et l'eau se rencontrent, c'est surtout sur les rives. Et je voulais écrire, j'avais une espèce d'ambition, comme ça, d'écrire une saga familiale, je sais pas, d'un millier de pages, entre 500 et un millier de pages, d'une grande famille qui explorerait, au fur et à mesure de la généalogie, plusieurs endroits où l'homme et l'eau se rencontrent. Et je n'y suis pas arrivée, donc j'ai divisé cette ambition en trois petits morceaux, puisque je voulais vraiment, j'avais comme idée d'explorer la rivière, le lac de barrage et le fond des mers. C'était mes trois axes principaux. Et par accident, pratiquement, sont arrivés les étangs. Mais au départ, c'était ça.
Est-ce que vous sauriez nous dire comment l'eau existait dans vos précédents romans pour que des lectrices ou des lecteurs vous fassent signe et vous proposent d'y regarder de plus près? Est-ce qu'ils voyaient juste?
Ben oui, puisque par exemple, et notamment l'eau de rivière, puisque quand j'ai écrit Lignée fils et que j'ai commencé à faire des lectures de ce livre, je me suis dit, tiens, je vais voir où c'est qu'il y a de la rivière dans mes autres livres, et j'ai voulu rassembler dans un fichier tous les bouts de mes livres où il était question de rivière. Et c'était impossible, tellement il y en avait partout, et notamment dans un livre qui n'était pas du tout censé parler de ça, et qui s'appelle « L'absence d'oiseaux d'eau », je me suis rendu compte que presque la moitié du livre était des descriptions de rivières, au moins un bon tiers.
Vous avez fait quoi? Vous avez rentré en contrôle F le mot rivière et vous avez cherché les occurrences dans vos documents?
Non, je savais à peu près à quel moment il était question de rivière, mais je ne pensais pas que ça prenait autant de place. Donc, ça prenait une place considérable.
Ça vous
et puis l'eau sous toutes ses formes, y compris sous forme de neige, donc voilà.
Et c'est une intuition qui vous a renseigné sur ce que vous écrivez depuis des années ou finalement c'était juste la porte d'entrée pour cette trilogie des rives?
Oui, je pense que c'était une porte d'entrée ou c'était... De toute façon, quand j'ai pas la réponse à quelque chose, j'écris. Mais j'obtiens pas la réponse en écrivant. J'obtiens d'autres questions, évidemment. Mais j'essaie d'aller y voir, voilà. J'ai la curiosité d'aller y voir. Et maintenant, est-ce que c'est fini? J'en suis pas sûre parce que c'est Paul, mon éditeur, qui m'avait dit « Bon, mais Emmanuel, si c'est une trilogie, il faudrait peut-être le décider dès le premier tome pour qu'on puisse le marquer sur les livres. » Et j'ai dit « Mais en fait, je sais pas trop si ça va se finir tout de suite. » Et puis je me suis rendu compte qu'il y a un livre hors trilogie qui a quand même aussi un rapport avec l'eau. Mais tant pis, il sera à part.
Et auquel vous travaillez?
Oui, auquel je travaille.
Et il aurait pu rentrer dans cette trilogie des rives, mais il sera un roman à part entière et c'est pas grave.
Oui, parce qu'il est quand même un peu spécial. Et puis surtout, je sais déjà qu'il s'appelle Orgel. Et je sais déjà qu'il est question de retirer l'eau pour que ça ne gèle pas ou pour qu'il n'y ait pas de danger. Donc finalement, il est à part.
C'est la fin, quoi.
Ouais.
Il n'y a plus vraiment d'eau. Dans l'archive, Gaston Bachelard dit que de ces trois éléments, choisissant l'eau, il y a un appel très fort des héros. Et il dit, et le héros, c'est le poète.
Ouais.
Je ne sais pas comment vous entendez cette phrase-là de Gaston Bachelard, mais en la soulignant, je vous inviterai volontiers à parler peut-être de ces deux héros, parce que c'est vraiment des figures de héros, d'une certaine manière, David et Jonathan. Dans Serez-vous des nôtres, est-ce que vous êtes d'accord?
Ah oui, c'est des héros, oui. Alors que pour moi, le poète, il n'est pas un héros, et surtout au sens où Bachelard le présente, il dit qu'il a l'emprise sur le paysage, et moi j'ai plutôt l'impression que nous qui arrangeons les histoires, alors peut-être aussi parce que je ne suis pas poète, j'en sais rien, mais on est complètement submergé plutôt par le paysage. Et on essaie juste de mettre la tête hors de l'eau, quoi, on va dire, en écrivant. Mais David et Jonathan, je les ai voulu comme deux beaux personnages d'hommes et d'amis. Je les ai construits comme ça. Alors oui, on peut dire que ce sont des héros.
Oui, parce que plusieurs fois, c'est pas impossible de penser même à des... Après, c'est peut-être la déformation de mes propres amours, mais à Achille, à des amitiés peut-être vraiment héroïques,
oui,
dans
oui,
ce sens-là,
oui.
des grandes épopées.
Oui. Pourquoi pas, oui. Oui, puis de toute façon, on peut pas ne pas penser à David, roi David, donc automatiquement. Et par contre, Jonathan, lui, il est quand même peintre, donc il a aussi cette tentative d'essayer d'ordonner ou d'avoir un peu un contrôle du paysage, mais il n'y arrive pas du tout.
Et pour peut-être... terminer cette grande introduction à la fois de la trilogie des rives et de cet opus-là. Emmanuel Pagano, vous disiez, nous qui ordonnons des histoires, dans un premier temps, en tout cas vous vous sentez submergé davantage. Mmh. Est-ce que c'est aussi une sensation littéraire? Parce que moi j'ai eu l'impression de rentrer dans ce texte comme si j'étais moi-même un sous-marin dans le texte et que petit à petit... les choses s'éclaircissaient, l'unité de temps, l'alternance entre les espaces, et que moi aussi, petit à petit, je sortais la tête de l'eau.
Oui, je pense que dans ce livre-là, en tout cas, c'est peut-être pas trop le cas des autres, puisque dans le précédent, par exemple, il s'agissait de cheminement, de digression et d'errance, où là, c'était plutôt un plaisir de se perdre, tandis que dans celui-là, oui, à un moment donné, il fallait... Voilà, il y a une perte de repère. Perte de repères que moi j'ai vécu et que j'essaie de restituer dans le livre tout en essayant de trouver des repères qui ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend. Mais il y a une désorientation comme ça.
Et qui tient à quoi?
En fait, je saurais pas le dire. Je pense que c'est assez intuitif. J'ai souvent des intuitions comme ça quand j'écris, voire des images ou même des schémas. Par exemple, dans l'Inéfice, j'avais le schéma de torsion de la soie. C'est comme ça que je m'étais dit, tiens, mon histoire que j'avais en tête depuis très longtemps, elle va rentrer dans ces lieux particuliers que sont les moulinages à cause de cette torsion sur elle-même de la soie que j'avais dessinée dans mon carnet. Et pour l'ensemble de la trilogie, quand je croyais encore que c'était un seul livre, j'avais fait des schémas complètement ratés. J'avais même demandé à d'autres personnes de me le dessiner parce que je suis nulle en dessin, avec plusieurs niveaux de paysage, avec des trous, des niveaux zéro, des niveaux d'altitude, etc. Mais je ne sais pas trop pourquoi. J'aurais du mal à savoir pourquoi. C'est des images et des intuitions.
Petit à petit, les repères qui s'installent pour nous, lectrices et lecteurs, c'est d'abord une unité de temps, une journée. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été à la base de la construction de votre roman, Emmanuel Pagano? Est-ce que ça a été décidé d'emblée?
Non, c'était pas décidé d'emblée, mais quand j'ai commencé à me... déjà, je n'étais pas censée travailler sur les étangs. Et lors d'une résidence que j'ai faite en Brenne, j'ai découvert ce monde-là qui m'a fascinée. Et j'avais découvert aussi le lac de Grandlieu, que j'ai un peu mélangé, même si c'est pas du tout la même chose au niveau du paysage et même au niveau social. Et moi, ça m'embêtait parce que je voulais travailler sur les sous-marins. Et puis, en me baladant au milieu des étangs, j'ai vu le centre de transmission vers les sous-marins qui se situe là-bas. Donc voilà, j'avais la possibilité de travailler sur les deux. Alors j'étais super contente. Et du coup, j'ai commencé à me documenter. Et en particulier, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les liens de l'eau » de Geneviève Bédoucha, où il y a tout sur les étangs de la Brenne, qui est un livre vraiment étonnant, enfin très très complet. Et bon, c'est de l'anthropologie sociale, hein. C'est pas... Elle raconte pas une histoire et en même temps il y a plein d'histoires dedans. Enfin bon voilà, donc moi je me suis beaucoup documentée dans ce livre et en particulier il y a un chapitre sur la pêche qui s'appelle l'invitation et où elle décrit cette pêche et je me suis dit ah mais voilà si je fais le parce que je savais pas comment m'y prendre. En plus j'étais sur un rythme ternaire où il y avait vraiment un rythme comme ça de trois choses et il y avait tout le temps la voix de David, la voix de Jonathan et la voix de quelqu'un d'autre qui avait un rapport avec les étangs. Et j'avais en tête vraiment au niveau musical ce rythme-là et j'arrivais pas à en sortir. Et quand j'ai décidé que ça allait se passer le jour de la pêche, je me suis dit qu'il fallait que je passe un binaire. Alors je sais pas pourquoi. Et que j'ai plus que David et Jonathan, mais qui devaient eux-mêmes porter la voix des autres personnes présentes autour de l'étang.
Et aussi peut-être des autres époques, puisque oui. Les heures avancent et votre livre est scandé par des heures, et cette sorte de à la fois de partie de pêche d'un côté et de remontée du sous-marin de l'autre côté, qui sont les deux lieux de David et Jonathan. Mais les souvenirs affleurent en même temps que cette journée avance. Puisque vous parlez des étangs de la Brenne, on y va.
Pour pêcher nos étangs, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle est bénévole. Et chaque propriété, chaque exploitant a ses équipes. Alors ces équipes, elles sont là depuis longtemps, elles sont un petit peu vieillissantes, elles peuvent plus tellement porter les bassines, mais elles viennent quand même. Et puis on essaie de trouver des jeunes qui viennent nous aider. Et si j'ai plus assez de personnes, je demande à tout le monde, essayez de me trouver un de vos copains qui porterait quelques bassines. Alors, il faut le présenter, il faut montrer patte blanche, qu'est-ce qu'il fait, etc. Non, ça se passe pas mal, mais vraiment, chacun a ses équipes et qui sont très, très différentes d'une propriété à une autre, d'une exploitation à une autre. C'est très amusant. Et chacun se respecte et se raconte pas trop ce qui se passe chez le voisin.
Allez, on la reprend. Vas-y.
Il est parti.
Il a tellement peur.
Il est allergique aux grenouilles.
Chacha, il est... Oui. Et alors, on le blague toujours, parce que dès qu'on trouve une grenouille, on lui dit que c'est pour lui.
Puis après la pêche, donc on va les remercier en leur donnant une bourriche de poissons, selon ce qu'il y a, selon les étangs. Et puis, on s'arrête pas là, parce que sinon, ça irait pas. Donc, pour les remercier encore, on les invite à la chasse. Alors, à la chasse aux sangliers, sur la propriété, dans les bois, Donc, ça fait partie aussi de la fête. Ils viennent souvent à la chasse, partager avec nous la joie de chasser. Mon mari lui-même chasse le sanglier avec des petites équelles. Donc, tout le monde est là, c'est la fête. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'aimerais vraiment faire perdurer cette tradition. Et ce... Voilà, c'est une grande famille. Et il y a aussi une vraie fidélité et une véritable amitié.
D'abord aux mains des seigneurs ecclésiastiques et laïcs, tous les étangs du pays étaient passés à celles de propriétaires issus de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, qui possédaient déjà de grands domaines fonciers. Avoir de surcroît les étangs n'était pas seulement rentable, c'était aussi un capital symbolique et prestigieux. La Caspienne, le plus grand des étangs, était très courtisée. Pour assurer la pérennité de l'exploitation, se marier en conséquence était un devoir. On tenait à laisser aux héritiers le privilège des étangs, cette propriété particulière qui était comme marque argentée des familles dans l'espace. Une richesse qui se voyait quand l'eau attrapait le métal du ciel. Un paysage du plus bel effet. Les lignes d'étangs et les lignées familiales se confondaient et se confondent encore. Les familles, s'assimilant elles-mêmes à leurs étangs, étalaient leur pouvoir. Celui de s'épandre au plus profond du pays, prolonger le patrimoine familial dans toutes les directions. Même cachés au regard des autres par les immenses forêts, les étangs étaient la démonstration de ce pouvoir de nuire par leurs émanations et leurs débordements. Inondations toujours craintes des métayers, mais aussi d'une longévité sans égale, se perpétuer de ligne en ligne. Il fallait s'étendre, dominer sans altitude, juste en amplitude. Une amplitude sans limite, comme la puissance du Seigneur, à perte de vue.
Quel cadeau cette découverte, Emmanuel Pagano, des étangs de la Brenne. Vous disiez tout à l'heure, j'avais pas prévu mais d'écrire là-dessus. Mais au final, ça offre une géographie pour votre écriture incroyable. On entend ici Romain de Bec de Lièvre lire un extrait de votre texte « Serez-vous des nôtres ?» et juste avant, un extrait d'un documentaire, très beau documentaire de Victor Massé de l'Épinay consacré aux étangs de Brenne et une propriétaire parlant, de son point de vue, de l'invitation à la pêche. Qu'est-ce que vous découvrez comme monde qui vous fait dire qu'il y aura là-dedans des ingrédients parfaits pour les histoires que vous avez à raconter, Emmanuel Pagano ?
Bah, déjà, je me promène. Je me promène juste après la pluie, en février, et ça miroite de partout, et c'est métallisé partout. C'est un paysage que je ne connais pas, où j'ai peur de me perdre, où je me perds d'ailleurs, dans les bois, près de la mer Rouge. À la Caspienne étant complètement inspirée de l'étang de la mer Rouge, évidemment.
Ce qui, entre parenthèses, joue sur notre propre perte. Hein. Tout à l'heure, vous disiez le début de ce roman est truffé de pertes de repères. Au départ, quand on lit la Caspienne, il faut un petit moment pour se dire qu'on parle d'un étang.
Et la Caspienne me permet de parler du lac de Grandlieu, qui est complètement différent, qui est un lac naturel, qui n'est pas du tout... parce que les étangs, c'est très artificiel.
Donc, vous vous promenez.
Je me promène... Et je me dis que, ben, je sais pas, dans le sud, on dit messe pente qui me saisit ou qui me laisse comme ça médusée. Je me dis, bon, je vais aller y voir de plus près et tout. Donc, je commence à interroger. Et la personne qui m'accompagne, parce qu'à un moment donné, je fais une promenade avec une personne du coin qui m'accompagne au bord de l'étang de la mer Rouge. Et elle commence à m'expliquer des légendes incroyables et de... Voilà, et là je me dis non, il faut que faut, forcément ça va. En fait, c'est ça. J'ai envie de. Je trouve ça extraordinaire, j'ai envie de le partager. C'est aussi bête que ça. Donc je commence à travailler. Voilà, après il y a ces histoires où en découvrant par le livre de Geneviève Bédoucha que l'invitation se double, et ce qu'on a entendu ici d'une invitation à la chasse, je commence à m'intéresser aussi à la chasse, et là je découvre la chasse par le lac de Grandlieu avec des grands fusils, et parce que je rencontre l'ancien garde de la réserve de chasse de Guerlain, qui me raconte des choses extraordinaires, et là c'est pareil, je me dis oh là là, je veux en parler. Et voilà comment j'essaie de lier les deux. Et voilà, ça va de découverte en découverte, d'envie de parler de quelque chose, d'envie de parler de quelque chose. Et je suis obligée à ce moment-là de recréer un paysage qui n'existe pas finalement. Et c'est là où ça a été le plus difficile, où j'ai failli abandonner. C'était impossible pour moi de raconter cette histoire, peut-être parce que c'était trop vaste, peut-être parce que les personnages principaux étaient des hommes, mais non, puisque je l'avais déjà fait dans des nouvelles, de prendre la parole d'un homme, mais voilà, ça me dépassait en fait. Je me sentais, oui, perdue et trop petite, et pour la première fois, vraiment la première fois depuis que j'écris, même pas depuis que je publie, mais depuis que j'écris, et ça date, j'ai été obligée de passer à la troisième personne. Alors ça paraît pas grand-chose, non, mais je veux dire, il y en a qui écrivent facilement à toutes les personnes, voilà. Mais moi, j'écrivais que à la première personne, soit du singulier, soit du pluriel, et j'ai mis très longtemps à me dire, j'ai pas le choix. Et là, pour moi, j'étais encore plus déstabilisée, mais voilà, c'est en écrivant à la troisième personne que j'ai pu écrire ce livre, je crois, sinon j'aurais pas pu. Ça me dépassait trop.
Ce qu'offre aussi cette géographie à la fois dont vous vous inspirez mais que vous retransformez, puisqu'elle devient vraiment une géographie fictive pour votre texte, Emmanuel Pagano, c'est aussi une géographie sociale, puisqu'on l'entend à la fois dans le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et d'Ify Mariani, mais aussi dans le texte lu par Romain de Bec de Lièvre, que tout ça est une organisation très extrêmement codé. Ça, vous le découvrez comment ? Donc, par ce texte-là, mais aussi par les histoires qu'on vous raconte ?
Oui, les histoires qu'on me raconte, ce livre dont j'ai parlé d'anthropologie, parce que ce qui se passe aussi à Grandlieu, en fait, tout est lié et tout est... Alors, il y a des codes, mais il y a aussi une histoire de dosage, finalement, et de...
De dosage ?
De dosage, dans le sens où c'est comme si le... Le territoire, l'eau qu'il y a là, eh ben, il y en avait tant pour telle personne, tant pour telle autre. Enfin, encore une fois, c'est quelque chose que je ressens et qui n'est pas du tout scientifique ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que chacun a sa part, un petit peu. Et qu'il faut faire attention à ce qu'on n'en prenne pas trop. Et puis, il faut faire attention aux frontières, aux limites. Puis, il y a tous les nuisibles dont j'ai parlé, les envahisseurs et les naturalistes qui sont considérés comme des envahisseurs. D'ailleurs, les naturalistes, c'est eux qui m'ont ouvert la porte d'entrée, bien que je ne sois pas réellement entrée, alors que c'était mon ambition, mais ça n'a pas pu se faire au centre de transmission vers les sous-marins, puisque c'est les seuls à être autorisés à...
C'est quoi les naturalistes ? C'est qui ?
Les naturalistes, c'est des personnes qui sont venues en Brenne pour étudier tout l'écosystème qui s'est créé, qui est complètement artificiel, mais qui s'est créé et qui convient maintenant de protéger. Et de faire un inventaire, en fait. Et donc, ce sont des gens qui rentrent dans les propriétés privées pour compter les orchidées, etc. Et c'est très mal vu, parce qu'en plus, ils limitent la chasse. Les gens se disent tout d'un coup, on n'est plus chez nous. Et ils sont considérés comme les envahisseurs et tout ça. Donc, il y a des espèces de luttes, de guerres. Et finalement, c'est assez passionnant, parce que ça parle des hommes, et que moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, finalement, par exemple, c'est pas les poissons, mais ça va être les hommes qu'il y a autour et leurs relations, et voilà, c'est passionnant.
Et ce qui est très fou, c'est que quand on se promène dans les étangs de la Brenne, c'est quelque chose qui est dans l'air. C'est-à-dire que l'idée que justement, ça travaille des relations entre des hommes et aussi des relations sociales et politiques très très fortes, et de domination, par exemple, se sent. Alors, pour rentrer plus avant dans la fiction que vous écrivez, à la troisième personne, Emmanuel Pagano, David et Jonathan sont aussi des héros qui matérialisent ces différences sociales, puisque l'un est plutôt du côté des propriétaires et l'autre est plutôt du côté de ceux qu'on invite. Tout à l'heure, on entendait cette propriétaire dire « c'est une grande famille ». Oui, mais il y a des frontières dans cette famille et il y a des différences.
Oui, il y a des asservissements, mais il y a aussi des asservissements volontaires. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a déjà interrogée. Notamment dans les relations hommes-femmes, de domination, etc., à quel point on est aussi conscient et consentant pour être dominé. Et donc, je me suis dit, finalement, qui dirige qui? Parce que cette main-d'œuvre dont elle parle, à un moment donné, c'est elle qui a la main. Et sans elle, on peut rien faire. Et voilà, et ça m'intéresse un peu de voir comment ça se renverse, puisqu'évidemment, c'est David qui va avoir le poste finalement le plus prestigieux, le plus important. Oui, c'était plus intéressant qu'il ne soit pas du même milieu pour pouvoir justement décrire ces différences de milieu.
Quand vous parliez tout à l'heure des légendes, c'est aussi des légendes qu'on retrouve dans votre texte, Emmanuel Pagano, et avec cela, les rumeurs. Et je me suis vraiment dit que l'élément de l'eau était aussi un élément de circulation des histoires, c'est-à-dire que votre texte, il est aussi traversé comme un paysage comme un paysage humide par des petits cours d'eau, de tout ce qui bruisse, quoi, de tout ce qu'on se dit, des dames blanches aux rumeurs d'histoires d'amour ou d'histoires de sexe.
Oui, parce que ça circule évidemment d'étang en étang, puisqu'en plus ce sont des étangs en ligne, mais ça imprègne aussi. On est toujours mouillé, on est toujours. Ça colle, on a du mal à se défaire de cette espèce d'autre peau qui serait une espèce d'air mouillé, comme ça. Enfin, je vois ça comme ça, j'ai ressenti ça comme ça. Et. Donc j'imagine que ça passe par là, que tout circule, mais c'est circule en s'arrêtant sur nous. Ça passe pas juste à côté. Je vois ça comme ça, ces histoires de rumeurs et tout.
Et c'est aussi pour ça qu'il est assez difficile de s'en défaire. C'est aussi un roman qui parle de la manière dont les uns et les autres essayent d'échapper à ce qui leur colle à la peau, aux histoires familiales ou à la terre, à la lignée. Le premier roman, Ligne et fils, était aussi traversé de ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que de transmettre quelque chose? Qu'est-ce que c'est qu'une lignée d'humains? Est-ce que vous diriez que Emmanuel Pagano, c'est l'un des je sais pas comment dire, des rivières souterraines de cette grande trilogie, l'interrogation sur la filiation?
Ah oui, mais de toute façon, l'interrogation sur la filiation, je crois que c'est quelque chose qui me travaille depuis toujours et que j'en ai pas encore fait le tour. Et je m'interroge beaucoup, oui, sur ce qu'on transmet et d'où on vient et comment on porte les histoires de nos ancêtres et enfin voilà, d'où on vient et dans ces deux livres-là, Ligne fils et Serez-vous des nôtres, le d'où on vient, il est aussi local, il est aussi lié au paysage. Mais le paysage, c'est la famille, c'est le paysage, et on ne peut pas s'en échapper. Même David qui est parti, même la mère de la narratrice de Ligne fils qui est partie, qui a changé de vallée, elle emporte avec elle tout ça. Et je crois qu'on ne peut pas s'en défaire, on ne peut que accueillir cet héritage.
Puisque vous mentionnez que David est parti et que je disais en introduction que ça fait peut-être toute sa puissance avant de dire et d'explorer l'univers dans lequel il est parti, ce David, vous écrivez, Emmanuel Pagano, presque un motif à rebours du retour du fils prodigue. C'est vraiment tout le creux du fils absent et c'est vraiment un texte qui va creuser ça. Qu'est-ce que c'est qu'un fils qui n'est pas là et qui est absolument là par son absence? Est-ce que ça aussi ça a été l'un des comment dire des moteurs d'écriture?
Ça je sais pas, il y a plusieurs choses qui se mêlent parce que quand j'ai écrit ce livre, moi, j'étais fâchée avec mon meilleur ami. Et je pense que du coup, et je l'ai retrouvé après, je pense que du coup ça a fait dévier cette histoire, alors que c'était peut-être pas ça au départ que je voulais raconter. Et puis il y a aussi cette chose qui m'est difficile à admettre et que je constate souvent, c'est que les absents, au lieu d'avoir toujours tort, ils sont toujours là. Et moi je trouve que c'est facile, quoi. On s'en va
et on est encore plus là que si on était
voilà,
là.
Et alors qu'on ne se confronte pas à tout ce qui se passe quand on reste. Je ne sais pas, mais je me disais, c'est trop facile. Alors j'ai essayé de voir ce qui pouvait se passer, mais est-ce qu'il est vraiment là partout, tout le temps, ou est-ce qu'il est seulement là dans la tête de Jonathan? Je ne sais pas, puisqu'on est quand même à la troisième personne, beaucoup dans la tête de Jonathan. Donc c'est peut-être pas si évident que ça, et c'est peut-être aussi ce que l'un et l'autre se racontent. Et la question est-ce qu'il va revenir? Et ça, c'est un choix que je n'ai pas voulu assumer et que je laisse au lecteur.
Voilà. Pour l'instant, David y remonte des eaux puisqu'il est depuis des mois en mission sous-marine et qu'au fur et à mesure que la journée et la partie de pêche avancent, eh bien, c'est comme si tout l'équipage avec lequel il a été pendant des mois remontait à la surface.
Être sous-marinier doit être un titre de gloire. Ne devient pas sous-marinier qui veut. Il faut être un parfait technicien, capable de manœuvrer, entretenir et réparer un matériel complexe. D'une santé sans accroc, endurant, il faut encore faire preuve d'une stabilité émotionnelle parfaite. Conserver son sang-froid est plus qu'ailleurs nécessaire, et cela dans les pires circonstances. Une erreur par 200 mètres d'immersion est souvent définitive, et puis cette vie d'équipe, dans un habitat si exigu et par là souvent inconfortable, exige une sociabilité parfaite. Les petits égoïsmes et les susceptibilités si fréquentes sont exclus. Enfin, l'optimisme, un optimisme foncier qui surmonte tous les obstacles et la marque du sous-marinier.
Dans l'eau, le son va plus vite que dans l'air. Mais il ne se propage pas en ligne droite. Errant dans toutes les directions, spécialement quand les fonds sont tourmentés, il est comme fractionné dans un kaléidoscope sonore. Les reliefs renvoient les échos sonores un peu dans toutes les directions. Le simple écho d'un son lointain peut résonner sur l'argile de la croûte terrestre, puis plonger avant de rebondir, sans que rien n'arrête son mouvement sinusoïdal. La salinité, la température, la saison, la météo et la pression, variant avec la profondeur, modifient aussi la trajectoire du son dans l'eau. Les ondes sonores émises par le sonar de certains bâtiments restent en surface. D'autres ondes descendent à cause du changement de température et parfois remontent à cause de la pression. Certaines, lancées en profondeur et ricochant sur un obstacle, remontent avec une déviation inattendue. En fonction de la vitesse du son, le bruit peut se concentrer dans une zone autour du sous-marin. Les sous-mariniers essaient de repérer ces zones de convergence et les cuvettes de non-détection où le son ne pourra pas se développer. Le sous-marin se déplace le plus souvent possible dans ces cuvettes, des zones d'ombre, situées entre deux trajets sonores. Il se cache en évitant les ondes émises par les sonars d'un bâtiment qui se trouve en surface et qui pourrait le détecter si le sous-marin se trouvait sur sa trajectoire.
Emmanuel Pagano, en entendant la voix de Romain de Bec-de-Lièvre, un extrait de votre texte « Serez-vous des nôtres ?» et juste avant, une archive qui parle de la qualité de sous-marinier. Alors tout à l'heure, vous nous disiez, avant que d'être complètement happé par le monde des étangs et des étangs de la Brenne plus précisément, mon projet était d'écrire sur les sous-marins et ou sous les sous-mariniers, vous n'avez pas précisé. Qu'est-ce qui vous intéressait ?
Ben, ce qui m'intéressait, c'était le métier que fait David, c'est-à-dire le métier d'oreille d'or. Je m'y étais intéressée parce que j'avais... Alors j'aime bien ça aussi, c'est travailler sur mes faiblesses. La première faiblesse, ça avait été et parfaitement repérée par mes lecteurs d'avoir peu de personnages d'hommes. Et j'avais une autre faiblesse que j'ai encore beaucoup de travail, qui est l'absence de son. J'avais pas assez de son dans mes livres. Et j'ai compris rien en musique.
C'était vous ou c'était des lecteurs qui vous disaient il manque
non,
du son?
Non, ils me disaient.
Ils sont quand même gonflés, vos lecteurs.
Ils me disaient qu'il y avait des images, tout ça, des odeurs, des sensations. Et moi, je me disais, Louis, alors. Et je suis pas du tout musicienne, j'y connais rien, mais c'est un monde qui me fascine. Et donc, je me suis dit, je vais travailler le son. Donc, j'avais commencé dans un texte sur une histoire qui se passait sur un ferry. Et puis bon, je m'étais intéressée à ce métier particulier qui est de reconnaître les sons sous l'eau.
L'oreille d'or, donc.
Voilà. Et donc j'avais déjà accumulé énormément de documentation. Et puis aussi, je travaille sur mes peurs. Et j'ai une grande peur absolument irrationnelle, une espèce, c'est pas une phobie, mais presque, je crois, qui est le chant des baleines. Et il me paraît que c'est apaisant d'entendre ça. Moi, ça me terrifie. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais aller me confronter à ça. Et voilà, donc je voulais déjà travailler sur ça. Et la vision du centre absolument incroyable de transmission des sous-marins en Brenne m'a permis, j'avais un prétexte tout trouvé pour aborder cet univers très particulier du sous-marin, pas n'importe quel sous-marin, c'est sous-marin nucléaire, à propulsion nucléaire, et ce métier particulier d'écouter les sons. Plus, je m'étais intéressée pour mon précédent roman à la communauté monastique, et en plus, juste avant de commencer vraiment à écrire, c'est-à-dire de sortir des notes, de commencer vraiment à écrire ce Révaux des Nôtres, j'ai rencontré dans un TGV pour Paris un moine bénédictin qui est devenu un ami, qui m'a parlé un peu de sa vie, tout ça. Et du coup, il me semblait qu'il y avait quelque chose de très commun, qui est une espèce de communauté parfaite entre des hommes. Et je me suis dit, mais comment c'est possible, moi qui suis pas du tout sociable, je me dis, comment c'est possible de vivre en milieu clos comme ça, de s'entendre parfaitement,
d'avoir des milliers de litres d'eau au-dessus de la tête.
Oui, et bon, ça c'est encore autre chose, mais cette entente dans un milieu confiné, voilà, je me dis, comment c'est possible? Et bah, c'est ça qui me paraît le plus extraordinaire.
Et ce qu'on découvre en vous lisant, Emmanuel Pagano, c'est que c'est savamment orchestré.
Ils ont choisi.
Mais ouais, c'est dingue de lire ça. C'est à quel point on met pas n'importe quelle personne dans une toute petite surface de sous-marin. Mais en fait, on les regarde. On regarde ces hommes agir les uns entre les autres. On cherche les compatibilités, la manière dont ils se complètent et la manière dont on va pouvoir échapper à une trop grande conflictualité sous l'eau. Et c'est très beau. La manière dont vous décrivez ça.
Et j'ai pas eu le temps et l'opportunité de voir quand ça dérape. Je me dis, à bien des moments, ça doit déraper. Et j'ai pas trouvé d'histoire où ça dérapait, ou alors c'est tenu bien secret.
Alors, ça ressemble à quoi ce centre que vous avez découvert en Brenne et qui vous a permis de relier ces deux grands appétits d'écriture, à la fois les étangs et à la fois les sous-marins?
Mais ce sont des très grandes antennes qu'on voit depuis les étangs, et quand on circule en voiture, tout d'un coup on se retrouve avec des grillages de partout et des interdictions de partout. Ne pas s'arrêter, ne pas ralentir, ne pas photographier. Alors moi je me suis dit, ouh là, ça doit être chez les militaires ça, mais jamais j'aurais imaginé que à cet endroit-là on communique, voilà, avec les sous-marins. Communication d'ailleurs très contrôlé et très limité.
Et on sent bien que autant il y a le monde de la surface dans votre roman, Emmanuel Pagano, avec cette partie de pêche, et puis c'est aussi un monde où ça parle beaucoup, il y a plein de liens familiaux, de liens d'amitié, de liens de territoire, de village, etc. Et puis il y a cet autre monde duquel remonte David, qui est le monde caché, qui est le monde où les sons sont, en effet, vous dites, il n'y avait pas de son avant, mais là ils sont là, mais ils sont particuliers, c'est pas n'importe quel son. Vous écrivez tout un registre de sons modifié par la mer, en fait, modifié par l'eau, singulièrement transmis.
Singulièrement transmis parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais les sons sur Terre aussi sont transmis d'une certaine façon. Enfin,
vrai.
Voilà. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était que cette eau qui est partout, autour, qu'on sait être là, on ne l'aperçoit absolument pas. On l'entend par défaut, on l'entend parce qu'elle déforme les sons, mais on ne l'aperçoit pas, on ne la sent pas, on n'a aucune idée de est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend, est-ce qu'on tourne. Physiquement, on n'en a aucune idée. On est obligé de mentaliser ça. Et alors là, qu'on perde de repères, c'est impressionnant. Et puis, ce centre, cette espèce de sas, finalement, entre les deux mondes, il m'a aussi intéressée. Je suis aussi allée enquêter par rapport à ce centre parce qu'il s'y passait des choses particulières. Et je me suis dit, tiens, ça aussi, c'est intéressant d'aller voir. Et après, il y avait des histoires aussi.
Il s'est passé quoi?
Ben, il s'est passé des incendies, il s'est passé des chasses et des pêches qui n'étaient pas spécialement autorisées. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et j'ai voulu aussi introduire un personnage, un fusilier qui est dans ce centre. Et des animaux. Et il y a beaucoup d'animaux qui circulent finalement d'un monde à l'autre. Et là, ce sont des chiens, mais il y a aussi évidemment tous les animaux pêchés, chassés, etc. Je crois que c'est eux qui circulent entre les hommes, peut-être, et qui amènent d'un territoire à l'autre.
Tout à l'heure, dans l'archive du départ où on écoutait Bachelard parler de l'eau et de l'élection de cet élément, il parlait, mais comme coincé entre deux bouts de phrase, de substance utérine. Et je crois que c'est très important de dire à quel point toutes les descriptions de sons, de transmission de sons par l'eau, Emmanuel Pagano, dans votre roman, appellent vraiment cet imaginaire-là. D'autant plus que plane l'idée selon laquelle David et Jonathan seraient peut-être frères jumeaux ou frères, ou en tout cas seraient reliés par de l'eau. Est-ce que vous aviez conscience de construire autour de ces deux héros masculins une sorte de poche d'eau, comme d'une certaine manière le ventre d'une mère?
Non, je voulais en faire potentiellement des demi-frères, ce qui est faux, ce que je dis, il n'y a pas de suspense, je dis dès le départ que les gens se trompent en imaginant ça.
Mais ça plane.
Mais ça plane, et je pense que ça se fait malgré moi, parce qu'on m'avait fait la même. C'est Pauline et fils.
C'est donc le premier de la trilogie.
Oui, le premier de la trilogie. Alors le deuxième étant beaucoup plus autobiographique, où il est question de ma propre naissance liée à la naissance d'un lac de barrage. Avec l'introduction d'une sœur jumelle que je n'ai pas, mais quand même, à part ça, à part ce petit détail, c'est quand même vraiment, il y a ma date de naissance, il y a mon nom de naissance, etc. Donc là, c'est conscient, évidemment, je parle de ma mère, je parle de la perte des os de ma mère, etc., à ma naissance, donc là, ok. Mais pour Ligne et Fils et pour Serez-vous des notes, je n'en ai pas conscience, mais on me l'a fait remarquer, et en particulier, une prisonnière, à Saint-Étienne, j'avais rencontré des prisonnières.
Une lectrice.
Lectrice, mais lectrice contrainte. Enfin, contrainte. Non, c'était sur le base du volontariat, mais c'est pas du tout pareil. Quelqu'un qui lit parce qu'elle va avoir un atelier avec un écrivain en prison, que quelqu'un qui va acheter le livre. Et elle m'avait dit, mais votre cocon, là, vos cocons de verre à soie et tout, parce qu'il y a l'histoire de déshydratation d'un nouveau-né d'un ligné fils, et elle me dit, mais vous vous rendez compte que finalement les cocons sont secs et c'est pour ça qu'il manque d'eau, et ça représente complètement l'embryon d'un utérus, mais ça serait un utérus sec. Et moi je me suis dit, mais elle a tout compris, moi j'avais pas du tout compris ça, mais finalement elle a relié tout ça, et ce que vous dites c'est certainement vrai, j'en avais pas conscience. Mais sans doute, la seule fois où j'en ai eu conscience de parler vraiment de matrice et d'utérus et de liquide amniotique, on va dire, éventuellement, c'est dans un livre très très ancien qui s'appelle Les adolescents troglodytes, où à la fin ça finit par une grotte qui est clairement, dans une grotte plutôt, qui est clairement une image de cet utérus. Mais tout le reste du temps, j'en ai pas conscience.
Il me semble que ce que le paysage nous dit, ou ce que le paysage exprime, je crois que ce serait plus juste de dire cela, ce que le paysage exprime, c'est une sorte de tonalité, une sorte de un bouquet, disons, donc d'impressions qui entrent en accord plus ou moins avec l'état général, pourrait-on dire, de notre corps. Autrement dit, il y a comme une sorte de, on va dire, d'entre-expression, il y a comme une sorte d'équilibre qui crée comme un échange entre notre état général, nos sentiments, nos impressions, et puis cette douceur, cette transformation, quoi, peu à peu, des arbres, de la végétation autour de nous. Et donc, le paysage nous rappelle que nous le vivons d'abord dans notre corps, autrement dit, nous nous l'approprions au sens où, en marchant donc dans le paysage, peu à peu, quelque chose de lui passe en nous, et d'une certaine manière aussi, quelque chose de nous s'exprime à travers cette entre-expression. D'où peut-être l'idée que souvent, nous ne voyons pas le paysage et nous ne ressentons pas le paysage de la même façon. Puisqu'il sollicite par tous les pores notre corps, nous permet de trouver en nous des pouvoirs ou des puissances de ce corps que nous ne soupçonnions pas. C'est-à-dire qu'il est révélateur, comme on dit d'un révélateur d'une photographie, il est révélateur en nous d'une certaine, d'une certaine tonalité, d'un certain rapport profond au monde.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux et Emmanuel Pagano.
Avant l'eau froide de Arlt, on entendait Emmanuel Pagano, la voix du philosophe Robert Dumas, nous parler du paysage et de, comment il dit, l'entre-expression. Vraiment cette espèce d'échange entre deux milieux, le milieu que serait le paysage et un milieu qui serait quoi, notre âme, notre intériorité, nos états. Et dans votre roman, serez-vous des nôtres, mais peut-être plus généralement dans votre écriture, d'une certaine manière, Emmanuel Pagano, je trouve que c'est très justement ce qu'il s'y passe.
Oui, c'est exactement ça. Je connaissais pas du tout ce philosophe et cette expression.
Entre-expression.
Oui, cette expression de entre-expression. Et c'est, ouais, c'est exactement ça. Et il m'est passé plein de choses dans la tête en écoutant ça. Et notamment que j'ai, moi, un profond regret que j'ai exprimé, je crois, dans Sauf riverain, qui est d'être très loin de tout ça. De ne pas participer au paysage. Parce qu'on parle bien de paysage, c'est-à-dire de travail de la nature par l'homme. Et de pas assez être en interaction directe avec cette nature. Je crois que c'est une vraie souffrance, finalement, que il faut que j'assume. Voilà, c'est-à-dire que je, à part marcher, je fais rien, moi. Je fais même pas de jardin. Je suis très loin de tout ce que faisait ma famille, des constructions, de tout plein de chemins, de champs, etc. Donc moi, dans Sauf riverain, je m'étais vraiment interrogée sur qui je suis, moi, au milieu de tout ça. Je fais quelque chose de très, très loin de tout ça. Voilà, je suis dans un métier de représentation et finalement d'intellectuel, donc trop loin. Et je pensais aussi à un film que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le ciel dans un jardin, de Stéphane Breton. Et où là, vraiment, il y a des personnes qui travaillent le jardin à main nue, directement, quasiment sans outils, et où il explique que ça se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'ils disent que le jardin révèle l'intimité d'une femme, etc. Et c'est vraiment un film très beau, que moi je trouve très beau, et où en plus il y a une scène d'obsèques, est-ce qu'on peut parler d'obsèques, je sais pas, où il y a un enfant qui est mort et qu'on enveloppe dans des feuilles de je ne sais quel arbre, et qu'on va, ou de je ne sais quel végétal, et qu'on va accrocher dans un arbre, et il va pourrir là dans son cocon de grandes feuilles, dans laquelle elle a été complètement. Qui ont été tressés autour de son corps. Et c'est quelque chose qui m'émeut particulièrement et que je trouve magnifique comme façon de quitter quelqu'un. Et je me suis aperçue, du coup, dans mon raisonnement, que c'était peut-être ça dont j'avais besoin pour me remettre à mon livre qui traîne et que je suis en train d'écrire. C'est un jardin et quelqu'un. Une femme qui fera un jardin, pour d'autres raisons aussi personnelles. Et je me dis, ah voilà, c'est ça en fait. Et évidemment, je vais être en cours de la représentation, c'est pas du tout moi qui ferai ça, j'en suis bien incapable et je n'ai pas la patience. Mais voilà, ce regret-là, peut-être, c'est pour ça que je l'ai dans mon œuvre, mon travail, on va dire plutôt. Voilà, c'est peut-être un regret.
Et en même temps, lorsque Robert Dumas parle d'un paysage comme révélateur d'une sorte de tonalité ou d'un rapport au monde, ça c'est présent dans votre travail, Emmanuel Pagano, parce que en vous promenant dans ce paysage des étangs de la Brenne, ou en découvrant un lac, ou en découvrant d'autres paysages, d'un seul coup, c'est comme si vous étiez aussi révélé à une forme de tonalité de langue, d'écriture, de projet. Vous n'êtes pas dans aucune interaction avec le paysage. L'écriture en est une forme.
Oui, et puis, on m'a dit que, quelque part, le regard seul suffisait à créer un paysage, et que ce regard, il y était dans mon travail. Donc ça va, je me sens un peu en paix, mais quand même, je suis loin de tout ça. Et c'est juste un écart, en fait. Et la représentation, c'est juste ça, un écart. Parce que quand même, et ça, je l'ai dit dans... Ben, je le fais dire à mes personnages, si on écrit, si on peint, si on est dans la représentation, c'est parce qu'à un moment donné, on a pas pu ou su être au monde, quand même. On est beaucoup comme ça, non? Qui travaillent la représentation à avoir un petit problème d'interaction avec le monde. Donc on passe par cette représentation-là pour y être. Et si, en passant par cette représentation-là pour y être un peu, même si ça induit qu'après on est toujours obligé de passer par là pour y être, mais ça c'est pas grave, c'est nous, c'est notre problème. Mais si en faisant ça, on permet à d'autres personnes qui nous lisent ou qui regardent nos tableaux ou je ne sais quoi, d'accéder aussi à quelque chose de ce monde-là, mais alors c'est merveilleux. Moi, je suis très contente.
David et Jonathan attendaient la fin des vacances pour nager dans la Caspienne. Seuls tous les deux. L'été indien, englouti par les temps, débarrassait leur corps du poids des paroles. Ils se déshabillaient d'un même élan et se baignaient de préférence en fin de journée, juste au bord de la nuit, dans le silence. Ce silence bien épais de la Caspienne, qui minorait l'éclat de leur course et de leur bataille, nuançait les éclaboussures. Après la course, les deux garçons s'immergeaient mutuellement, par jeu. Ces jeux de défis propres aux adolescents, avant de rebondir grâce à des ressorts de vitalité, dans la revanche à venir et le rire, camouflés par l'indulgence des soirs de septembre-octobre. Le secret de ces moments devait beaucoup à la proximité de l'automne et à ce silence qui mettait leur corps à corps comme entre parenthèses. Quand l'élan des bras et des jambes commençait à ébrécher la nuit et chasser les premières étoiles sur l'étang, ils s'arrêtaient de nager, se regardaient et attendaient de savoir lequel des deux donnerait le signal du retour. La surface obscurcie tranchait leur corps au nombril. Dans cette immobilité mouillée, leurs jeunes poils se dressaient et jouaient aux insectes d'eau. Dessus, dessous, où était la limite entre désobéir et s'aimer? Et qui allait trahir l'autre en premier en prétextant le froid ou le lycée du lendemain? La chair de poule mentait sur le désir de se chamailler encore, et la forêt, la forêt sombre qui faisait ce cercle protecteur autour de leurs ébats, retenant la chaleur du jour et devançant la nuit, était le gage de leur amitié. Ils restaient ensemble, et la plupart du temps, rompaient la magie d'un commun accord, sans mots.
Et c'est avec cette baignade nocturne que nous terminons. Emmanuel Pagano, Romain de Becdelièvre lit un extrait de votre texte « Serez-vous des nôtres ?». Vous disiez tout à l'heure que il avait été rapidement question d'amitié entre ces deux-là, mais c'est une amitié si forte que très souvent la question du désir s'y invite et par les eaux. Et c'est vraiment aussi toute une autre, un autre versant de la manière dont votre écriture profite des rives et de l'eau, c'est le désir, la sexualité, les corps, qui n'épargnent pas David et Jonathan.
Non, évidemment. Puis en plus, ce moment-là, ils sont adolescents. D'ailleurs, merci Romain, il y a une incarnation comme ça de ces personnages que je n'avais pas senti. Et qui, enfin, je trouve ça très beau la manière dont vous lisez. Voilà, merci. En plus, ils découvrent la sexualité en même temps. C'est ce côté de ben, c'est ça l'amitié quand même. C'est ça les amitiés adolescentes, il me semble. Alors, bien sûr, moi, j'ai pas été un garçon, mais je crois voir dans ce qui se passe avec mes fils. J'ai cru voir ce qui se passait avec des amis. Que finalement, c'était la même chose que ce qui se passe avec les filles. À un moment donné, on partage tellement de choses à ce moment-là, à cet âge-là, que forcément, ça déborde. Voilà. Et c'est ni révélateur de quoi que ce soit, ni grave, mais j'avais envie de parler de ce. Voilà. Encore une fois, c'est un partage. Je pense, tout simplement. C'est un partage. Sauf que dans cette amitié-là, il y a quand même une sorte de compétition. Voilà. Et bon, ça pose problème.
C'est un texte très riche. Serez-vous des nôtres, troisième opus de la trilogie des Rives, sauf Riverain et Ligne et Fils, c'était les précédents. Merci beaucoup, Emmanuel Pagano. Tout ça est paru chez POL.
Merci.
Au son ce soir, c'était Alain Joubert à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Un grand merci à Lou Quevauvillier, Romain de Becdelièvre, Jeanne Aléos et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Très belle soirée à tous sur France Culture.